c'est 1 à 11. Philippe Piel 2. Comment dois-je vivre? Comment dois-je me comporter? C'est une question que vous vous posez parfois en tant que chrétien, dans des situations parfois très complexes et très difficiles et qui sont un grand défi pour vous. Nous lirons ce passage dans une de ces situations, dans l'église de Philippi, il y avait des problèmes, des conflits. Même à la fin de cet épître, Paul doit exhorter Évodie et Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Il doit aller jusqu'à demander à un compagnon, un fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, parce qu'elle n'arrive pas à résoudre le conflit toute seule. Il y a des problèmes vraiment très drastiques. C'est dramatique pour deux chrétiens, deux chrétiennes expérimentées, de ne pas pouvoir surmonter un conflit. Mais dans ce passage, nous entendons le remède. La réponse à cette question, comment dois-je me comporter? S'il y a donc quelque consolation au Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, c'est-à-dire si vous avez goûté ce que c'est que d'être chrétien, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts. C'est une phrase très forte. Considère aussi ceux des autres. Et voilà le passage qui nous concerne. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dans la condition, était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La réponse à cette question, comment dois-je me comporter, est assez simple, comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Selon ce passage, c'est la recommandation de Paul à l'église de Philippi. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Nous voyons que partout dans le Nouveau Testament, Dieu nous appelle à une éthique nouvelle, une manière de vivre qui est complètement différente. Il ne nous donne plus simplement une loi des 10 commandements, un code impersonnel. Il nous donne un exemple vivant. Et il nous dit, conformez-vous à Jésus-Christ. Conformez-vous à Jésus-Christ. Nous lisons par exemple en 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui déclare demeurer en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Et si nous voulons fonder cette éthique vraiment, nous pouvons regarder trois passages clés, un qui parle du passé, un deuxième du présent, un troisième du futur. Et dans tous ces trois passages, nous sommes exhortés à nous conformer à l'image de Jésus-Christ. Voilà le premier. C'est Romains 8, ne tournez pas. Romains 8, 29. On parle du passé. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés dans le passé lointain. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Votre conformité à Jésus-Christ est une chose prédestinée dans le passé éternel. C'est le vœu éternel de Dieu que vous soyez comme Jésus-Christ. Deuxième passage qui parle de notre présent se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 18 où nous lisons, nous tous, nous croyons, nous tous, qui le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible nous dit que dans le présent, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est essentiellement une chose, c'est au moins sur le plan éthique, c'est de nous transformer à l'image de notre Seigneur. Et parfois, nous pensons que ça se passe tellement lentement et péniblement que est-ce que ça se passe du tout? Mais la Bible nous dit que non, c'est vrai. Si on vous avait connu il y a 20 ans, on aurait vu que vous êtes en train effectivement d'être rapproché à ce que Jésus-Christ est dans son caractère et éloigné de ce que vous étiez. C'est une chose merveilleuse. Donc le passé et le présent et le futur. Car en 1 Jean chapitre 3 et verset 2, nous lisons ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà le passé dans notre prédestination, le présent dans notre sanctification et le futur dans notre glorification. C'est aussi une grande réalité trinitaire parce que le Père nous prédestine à être conformés au Fils et il opère par l'Esprit. Donc, nous sommes bien d'accord que la réponse à notre question, comment est-ce que je dois vivre, comment est-ce que je dois me comporter, il faut de plus en plus que moi et vous que nous pensions en termes de Jésus-Christ, comment il est. Mais, et là j'aborde mon deuxième point rapidement, devenir comme Jésus-Christ n'est pas une affaire d'imitation ponctuelle dans une situation donnée, mais plutôt une affaire globale, un suprême projet de vie. C'est-à-dire, il ne suffit pas quand vous êtes dans une situation difficile ou complexe de vous dire, là maintenant, si je ressemble à Jésus-Christ, qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que je vais faire? Vous devez sans doute faire cela. Mais ce à quoi Paul nous exhorte est plus global. Il dit, ayez en vous la pensée qui était imparfaite, qui était, pas juste à un moment donné, qui habitait toujours en Jésus-Christ. Et le mot pensée, on ferait mieux de dire la mentalité. Ayez en vous la mentalité Parce que c'est pas une pensée. Bien sûr, en français, la pensée qui était en crise peut vouloir dire la mentalité, mais je traduis pour que vous puissiez savoir. La perspective, la mentalité, la manière de voir et de se voir qui était en Jésus-Christ. C'est ça. Et donc, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un projet global, de quelque chose que je dois adopter et embrasser, qui va colorier tout ce que je fais, et pas seulement une situation donnée. Le troisième point. Être comme Christ et se conduire comme Christ n'est jamais un problème à fuir, mais toujours la solution à tous nos problèmes. Je le dis parce que parfois, quand nous sommes dans une situation et on nous dit « vous devez aimer comme Jésus-Christ », notre réaction, c'est que ça, ce n'est pas une solution à mon conflit, mon problème. Tu me donnes un plus grand problème. Parce que la dernière chose que je veux faire, c'est d'aimer comme Jésus-Christ dans cette situation. Et notre péché est si horrible et blasphématoire que nous voyons le fait d'être comme Jésus-Christ comme un problème à fuir, plutôt que comme la solution à embrasser. Mais c'est ce que nous faisons. Mais nous ne devons pas le faire. Comme Ruben Sayas a dit dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, que nous trouvons dans sa manière de pardonner, de s'abaisser et de servir le secret du vrai bonheur. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Car nos amertumes, nos haines, notre égoïsme, c'est ça qui est en train de nous tuer, de nous rendre fâchés avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes, de nous déchirer, de rendre la vie misérable. Mais il y a un amour qui est tellement plus grand que notre petit amour, que quand il arrive à aimer, servir, s'abaisser, comme Jésus-Christ, nous trouvons que rien ne peut nous mettre dans de telles misères. Quatrième point. Dans n'importe quelle situation concrète de notre vie, une partie de notre démarche, pensez à la situation de votre vie, une partie de notre démarche, c'est de contempler le caractère de Jésus comme notre modèle. Et de contempler Jésus dans son incarnation, comme Paul dit, ce mouvement d'abaissement, de perte volontaire, de sacrifice. Pensez à vos situations différentes et je crois que vous verrez que nous avons en cela vraiment la piste à suivre. Et que nous compliquons encore plus nos situations dans la mesure où nous ne sommes pas comme Christ dans sa descente, dans son abaissement volontaire, dans sa recherche, non pas de gagner, non pas d'être reconnu, non pas de profiter, mais de perdre avant que les autres gagnent. Et maintenant, ça nous amène à aborder le cinquième point qui est le cœur de ce passage. Ce à quoi nous devons nous conformer en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement les actes extérieurs de Jésus, mais surtout son attitude de cœur qui conduit effectivement à ces actes. Et donc, nous lisons dans ce passage, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Paul ne dit pas « Faites les choses que Jésus fait. » Il dit « Ayez en vous, ayez la pensée, la mentalité profondément dans votre cœur. Ayez cette manière de regarder et la vie et vous-même et votre comportement Ayez cette mentalité qui était en Christ Jésus. Spécifiquement, c'est la mentalité qui l'a amené à s'abaisser, à s'incarner et à servir comme un esclave et à obéir jusqu'à la mort. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, Paul dit que nous devons imiter Jésus dans notre générosité, dans notre usage de l'argent. Il dit, lui qui était riche s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et nous voyons deux fois dans ce passage en Philippiens que Jésus s'est abaissé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même, verset 7, et verset 8, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant. Et nous retrouvons cette même idée qu'en 2 Corinthiens 8, 9, que de riche qu'il était, il s'est appauvri. Et il fait cela volontairement. C'est quelque chose qu'il cherche. C'est une chose d'accepter de souffrir quand on vous oblige. C'en est une autre complètement. Ça vient d'une autre mentalité d'aller vers ça par choix. Et ça, c'est la mentalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est cette mentalité? C'est une mentalité d'humilité. Nous lisons dans le verset 6, « Lui dont la condition était celle de Dieu. » Le mot « condition », c'est le mot « morphé » qui signifie l'essence d'une chose, le caractère inchangeant d'une chose. Lui, dans le caractère inchangeant, était Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Ce mot ne signifie pas que Jésus s'est vidé de sa divinité, ça c'est une erreur de penser cela, mais ça signifie plutôt qu'il a laissé de côté son rang divin. Tout en ayant ce rang, il prend une position, une situation, il adopte une situation où il n'a plus le rang qui vraiment le tient. Il n'utilise plus d'une manière indépendante ses pouvoirs divins. Il ne manifeste plus ses attributs divins. Il les a, mais il choisit de se vider de son rang, de sa dignité, de son autorité. Il est maintenant né sous la loi, né d'une femme. Il n'a plus de richesse, il n'a pas d'endroit à poser sa tête, lui qui possède toutes choses. Il n'a pas de gloire visible. Ésaïe nous dit qu'il était quelqu'un, il était comme quelqu'un dont on détourne le visage quand on le voit. Il n'avait rien en lui pour nous plaire. Et il prend cette allure, cet aspect, volontairement. Il s'abaisse. Et sans doute, si le soleil devait s'abaisser pour devenir un petit grain misérable de poussière, ce serait un abaissement infiniment plus petit que l'abaissement du Fils de Dieu lorsqu'il devient homme. Pas Michel-Ange, je ne veux pas parler d'un artiste. Si Michel, l'archange, devait s'abaisser pour devenir un garçon dans un petit bled qui cire les chaussures des gens, ce serait un abaissement inconséquent. Ce serait un mouvement presque pas visible comparé à l'abaissement du Fils de Dieu qui devient homme. Quelle est cette mentalité qu'il a pour faire cela? La deuxième chose que nous voyons dans cette mentalité, c'est que c'est une mentalité pour servir, pour s'abaisser et pour servir. Avant d'en parler, je dirais juste qu'il n'y a Rien de plus commun dans l'humanité que le désir d'être quelqu'un, c'est-à-dire de se démarquer, d'être plus beau, plus intelligent, ou de se lamenter qu'on ne l'est pas. Je dirais que dans notre péché, le mouvement est toujours pour essayer de s'exalter, de s'élever, d'être remarqué, d'être reconnu. C'est inné en nous et c'est la définition même du péché. Vous ne l'aimez pas lorsque vous voyez quelqu'un d'autre qui a soif et faim d'être reconnu, de se démarquer. Et alors, vous-même, moi-même, nous avons ce mal en nous-mêmes, n'est-ce pas? Ça entre dans les églises et parfois le motif même des gens dans les églises, le motif fondamental, on voit, c'est qu'ils veulent se démarquer. Il n'y a pas de changement. Ils étaient comme ça avant la conversion, ils se disent convertis, mais ils ont transporté ce désir pécheur de s'élever dans le domaine spirituel. Et toute leur spiritualité est un désir d'être reconnu, d'être quelque chose. C'est terrible. Et nous en sommes tous coupables. Mais le Seigneur Jésus était exactement le contraire. C'est fou. Et c'est éternellement important pour nous que le Fils de Dieu s'est abaissé. Comment pouvons-nous, en face de cela, vouloir nous élever? Comment pouvons-nous? Mais je vous disais deuxièmement que sa mentalité était une mentalité de servir. C'est pas s'humilier pour rien, juste pour le plaisir de s'humilier. Le texte nous dit que lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, ou il n'a pas retenu jalousement son égalité à Dieu comme une chose à garder à tout prix visible devant les hommes, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, le même mot, morphée. Il est devenu véritablement esclave en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La condition d'esclave, l'obéissance d'un esclave. Un esclave agit uniquement pour l'autre. C'est celui qui ne peut pas agir pour lui-même. Mais Jésus est devenu volontairement notre esclave, en quelque sorte. Celui qui nous procure notre salut. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quelle mentalité était en lui pour qu'il s'abaisse tant, pour qu'il se fasse tant serviteur? Et nous le voyons constamment, jusqu'au bout, et jusqu'à cette nuit où il enlève ses vêtements, il prend cette serviette, il prend visiblement cette foi. C'est comme s'il voulait faire une mise en scène de Philippiens 2. Il prend visiblement l'aspect d'un esclave, et il s'abaisse et il lave les pieds sales, comme pour dire, voilà ce que je fais depuis 30 ans. Voilà ce pourquoi je suis venu pour faire cela. Et je vais jusqu'à cette croix infâme pour vous servir. Et si nous devons dire quelle est la mentalité qui mène à un tel abaissement, un tel service? C'est simplement l'amour divin. Nous le savons parce qu'au début de ce passage, nous lisons que au verset 3, que nous ne devons rien faire par rivalité ou par vaine gloire, le désir de s'élever, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. C'est une définition de l'amour, n'est-ce pas? Lorsque je mets mes intérêts de côté et je considère ma mentalité n'est plus de dire est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'elle va m'aimer? Est-ce qu'elle me traite comme il faut? Est-ce qu'elle agit avec moi d'une manière convenable? On met cela de côté. Parce que normalement, dans notre péché, ça domine. Ça domine. Et nous sommes toujours en train de demander, est-ce qu'on me traite comme il le faut? Est-ce qu'on me donne ce qu'il faut? Est-ce qu'on me respecte comme il le faut? Et la mentalité de Jésus était d'accepter que rien de cela n'est plus important. Il m'a pris la place. L'autre, il a besoin de quelle place? Mais il m'a fait un tort. Celui qui fait tort, de quoi a-t-il besoin? Comment puis-je le secourir parce qu'il est gravement en danger, puisqu'il est dans le tort? Vous voyez? C'est exactement ce que le Christ est en train de faire. Nous sommes dans le tort envers lui. Et au lieu de dire, ils auraient dû me traiter autrement, il dit, de quoi ont-ils besoin ces hommes, ces femmes que je fais qui sont dans le tort? Ils ont besoin d'un sacrifice, de quelqu'un qui meurt, qui souffre à leur place. C'est absolument extraordinaire, mais c'est ça l'amour. Que chacun de vous, au lieu, c'est ça le problème, au lieu de considérer vos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans des Éphésiens chapitre 5 et verset 2, nous le voyons de manière explicite, ce fait que c'est l'amour qui est cette mentalité qui produit l'abaissement et le service. Lorsque Paul dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Oui, nous devons sans doute beaucoup plus penser à Christ, non pas n'importe comment, mais penser à lui dans ce mouvement où il laisse de côté son rang, son autorité, ses droits, ses prérogatives, afin de chercher à faire du bien aux autres. Si nous voulons aimer seulement si ça nous coûte rien, si on ne perd rien, si on ne doit rien encaisser de mauvais, nous ne pouvons pas être comme Jésus-Christ. Si nous voulons aimer, quand mon frangin, ma frangine me donne la bonne place à table, ou quand mon mari est attentif, ou quand ma femme est douce avec moi, nous n'arriverons pas très loin, n'est-ce pas? La mentalité qui était en Jésus n'était pas une mentalité qui disait, j'attends pour voir comment tu me traites et ensuite on verra comment je te réponds. C'est très très différent. Je termine en disant rapidement, mais comment pouvons-nous être conformés à l'image de Jésus-Christ? Paul dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ. Mais Paul, comment? Je veux justement, mais comment? Bien sûr, il faut être à lui, car c'est son projet, c'est le projet de Dieu d'agir dans nos pensées, dans notre mentalité. Mais nous pouvons dire trois choses. Nous sommes conformés à Jésus-Christ par l'attraction. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas le faire par devoir. Vous ne pouvez pas vous dire, ah bah, le pasteur m'a dit, il a prouvé de la Bible quand même, que je dois imiter Jésus-Christ. Je dois ressembler à Jésus. Donc, je vais essayer de ressembler à Jésus. Non, non. Les chrétiens qui sont conformés à Jésus-Christ sont ceux qui sont attirés par le caractère de Jésus-Christ. Vous avez quand même vécu cela. Vous avez vu une personne qui était pour vous remarquable, qui vous attirait par son caractère. Et cette attirance avait une force presque magnétique. Et vous aviez envie d'être comme lui, comme elle, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, doit devenir pour nous une force attractive. Lorsque nous passons du temps avec lui, lorsque nous le voyons dans les pages des évangiles, surtout lorsque l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux pour voir son caractère, ça doit devenir un aimant pour nous. Et il doit y avoir de plus en plus quelque chose dans notre cœur qui dit, oh combien je voudrais être comme ça. Et sans cette force d'attraction, juste le devoir, ah oui, je dois, ne marchera jamais. Donc, je m'exhorte, je vous exhorte à prier vraiment intensément et à passer du temps dans les évangiles et à demander au Seigneur que le Christ nous attire par ce qu'il est. Deuxièmement, et c'est lié, j'ai dit nous sommes conformés à Christ par l'attraction, nous sommes conformés à Christ par la contemplation. Je vous ai lu 2 Corinthiens 3, où nous avons vu que nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Mais ça sous-entend que nous contemplons. Et c'est de là que vient cette attraction, n'est-ce pas? Et je me demande, et je vous demande, combien est-ce que vous lisez les évangiles dans ce but même? Est-ce que vous lisez les évangiles en contemplant le caractère, la mentalité de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme parfait. Jésus est le doit-être de l'homme. Il est votre doit-être. Et vous devez le contempler comme ça dans les évangiles. Et troisièmement, nous sommes conformés à Jésus par l'attraction, nous sommes conformés à Jésus par la contemplation, nous sommes conformés à Jésus par l'œuvre de l'Esprit. Et en 2 Corinthiens 3, nous lisons donc que contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Par le Seigneur, l'Esprit. Cette transformation est tellement céleste, c'est tellement pas naturel. Ça demande la présence en vous de quelque chose qui n'est pas de vous, qui n'est pas de ce monde, que vous devez dépendre de manière très très profonde de l'œuvre de l'esprit. Donc il y a un aspect de l'attraction, il y a un aspect de votre activité de la contemplation, il y a une activité de dépendance, parce que c'est par l'œuvre de l'esprit que nous sommes conformés à Christ. Je termine en demandant tout simplement, dans nos situations de vie, quand vous êtes loin d'être comme Christ, est-ce que vous vous demandez parfois, est-ce que Jésus est vraiment le modèle que je porte avec moi habituellement dans ma vie? Ou est-ce que c'est plutôt rare pour moi de penser à Jésus et comme il est, dans sa descente, dans son incarnation, dans sa croix? Est-ce que vous contemplez le Christ suffisamment pour être attiré par lui? Ou est-ce que c'est plutôt rare pour vous de vous trouver dans les évangiles, regardant le visage de Jésus-Christ? Est-ce que le caractère de Christ grandit sur vous? Est-ce qu'il devient plus réel, plus présent à vous chaque année? Est-ce qu'il devient vraiment ce modèle vers lequel votre cœur s'en va? Alors, ce sont des questions que je me pose et sans doute le Seigneur nous aidera dans sa grâce de plus en plus à pouvoir répondre oui de plus en plus. Et il m'attire vers lui-même. Nous allons maintenant chanter et après prier un moment au sujet de tout cela. Mais le chant que nous chantons parle justement de cette ressemblance à Jésus que nous voulons. C'est le 299. Ah, donne à mon âme. 299. D'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, sans vivant exemple, sa croix, sa tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus a des larmes, je veux compatir. De toutes tes âmes viennent par plus de prières, de zèle et de foi, que de la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur joyeux. Prends au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa faveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Je vous invite à prier.
Merci Seigneur, parce que nous avions besoin vraiment d'entendre ces choses et la manière dont tu t'es comporté en abandonnant ton ciel pour venir descendre nous chercher ici-bas où nous n'avons rien et même moins que rien puisque nous n'avons que le péché. Et merci Seigneur, parce que tu nous attires à toi, tu nous donnes les moyens de nous élever vers toi, de t'imiter, tu nous donnes le goût et le désir de te suivre et d'être rendu conforme à ton image, et tu mets tout cela en nous, et ce n'est pas dans notre nature d'aimer ces choses. Merci parce que tu le fais, et parce que tu le fais parce que tu sais bien que nous en sommes incapables par nous-mêmes. Gloire te soit rendue. Amen.
Amen.
Seigneur, aie pitié de nous, parce que c'est vrai, nous sommes tellement, tellement focalisés sur nous-mêmes, sur ce que nous voudrions faire, ce que nous désirons avoir, ce que nous pouvons pas avoir. Au Seigneur, aide-nous à mettre à mort cette vieille homme et de vraiment te voir avec tes yeux qui puissent comprendre aussi. Change-nous, Seigneur, avec l'aide de ton esprit. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous te bénissons, éternel Fils de Dieu. Toi, dans la forme de Dieu, tu n'as pas regardé ton rang divin comme une chose à garder à tout prix. Tu t'es humilié, tu t'es vidé toi-même par amour, parce que tu ne regardais pas tes propres intérêts, mais les nôtres. Nous, les rebelles qui t'avaient donné tout sauf ce que tu méritais. Et malgré ça, tu penses à nous. Tu penses à nos besoins. Et tu fais plus que penser. Tu t'humilies. Tu obéis. Tu souffres jusqu'à la croix. Par affection et amour insondable pour nous. Nous sommes devant ton mystère, qui tu es. Et nous sommes sauvés par ce mystère de ton amour, cette pensée qui était en toi et qui l'est toujours. Pardonne-nous, Seigneur, oh, pardonne-nous. Ce qui est sûr, c'est que maintes fois, quand nous avons été égoïstes au-delà de toute description, nous ne pensions pas à tout cela. Nous ne pensions pas à toi. Comment pouvions-nous? Nous prions donc, Seigneur, que tu fasses ton œuvre qui est au-dessus de nous, comme Pierre l'a dit, mais que tu opères fidèlement. Rends-nous dociles, nous te prions, et attire-nous à imiter ton incarnation. Nous nous remettons entre tes mains pour cette journée, demandant que tu nous bénisses, Seigneur, et que tu lèves ton visage sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.
c'est pas faire la bise.
J'ai dit,
c'est pas moi que j'ai fait, mais c'est mon ami.
D'accord, oui, j'ai fait.
Pas encore.
C'est officiel, non, mais oui, c'est ce que je voulais dire.
Ouais. C'est ça. Bon, bref.